Bienvenue à bord de cette présentation. J'espère que vous avez bien accroché vos ceintures de sécurité. Parfois, quand vous entreprendrez, c'est un peu ça. C'est la logique de « it's not possible, no, it's necessary ». Entreprendre, c'est pas facile tous les jours. Pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui, là, j'ai eu un copain au téléphone qui est en train de lever 1 800 000 euros. Il se trouve que son partenaire business qu'il a depuis maintenant quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans, a eu une crise d'ego et a décidé d'arrêter de travailler avec lui parce qu'il a appris qu'il était en train de lever avec d'autres personnes, alors que cette même personne qui est son partenaire business depuis 1 an et demi, 2 ans a refusé de participer à cette levée de fonds, qui est un mouvement de sa part qui est très stupide. Mon pote en question est en plein milieu de sa levée de fonds, littéralement, c'est-à-dire que il doit recevoir les accords signés de financement de ses investisseurs au cours des 10 prochains jours. Et il est obligé, pour des raisons d'honnêteté intellectuelle, de le dire à ses investisseurs, parce que sinon la confiance serait rompue. Donc, entreprendre, parfois, ce n'est pas possible, mais c'est nécessaire. Oula, pardon, excusez-moi. Je vous ai mis quelques citations de Napoléon ou de Churchill qui sont, à mon sens, très pertinentes pour un entrepreneur. Le doute est l'ennemi des grandes entreprises. C'est-à-dire que quand vous entreprenez, une fois que vous avez avant d'entreprendre, vous avez le droit d'avoir tous les doutes possibles et imaginables au fait d'essayer d'entreprendre ou de décider de le faire. C'est même quasiment indispensable. Par contre, le moment où vous avez pris votre décision, il est indispensable que vous ne laissiez plus de place au doute. Il faut que vous alliez vraiment jusqu'au bout de ce que vous pensez et ne pas vous laisser polluer par des gens ou par des idées malsaines ou des idées négatives. Et l'imagination gouverne le monde. Sans imagination, vous ne pourriez pas créer votre entreprise sans l'imagination. L'imagination de ce que pourrait devenir ce que vous souhaitez faire. Sans l'imagination, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Mentir n'est pas une bonne idée. Comme le disait Napoléon, le mensonge n'est bon à rien puisqu'il ne trompe qu'une fois. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'acheter dans la vie. Il y a deux choses qui ne peuvent pas s'acheter. C'est le temps et votre réputation. Si vous vous amusez à mentir aux gens, vous aurez une mauvaise réputation et vous ne pourrez pas la racheter. Donc, mentir, ça ne sert à rien. Après, les Américains ont l'expression « fake it until you make it », ça veut dire « faites semblant jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif ». Ceci étant dit, cet objectif doit être réalisable. Il faut que vous soyez en capacité de le délivrer, même si vous n'êtes pas en capacité à un instant T de le délivrer. Il faut que vous puissiez le délivrer. C'est-à-dire vous devez absolument, quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, que vous soyez au courant que à l'instant T, vous n'êtes pas en capacité de le faire, mais vous avez les connaissances nécessaires, personnelles ou dans votre équipe, pour savoir que, avec l'argent que vous pourriez obtenir de ce fake it until you make it, vous serez capable d'atteindre cet objectif. Du moins à 10 ou 20% près, et c'est ça qui compte. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Alors, j'ai oublié un T, donc vous m'excuserez pour cette faute d'orthographe absolument inexcusable. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça, c'est Churchill. Donc, si vous avez monté déjà une boîte ou vous en avez pas encore monté mais et que vous la plantez, il faut pas considérer ça que... Comme vraiment quelque chose de bloquant pour votre succès final, parce que en fait on apprend de ses échecs et c'est dur psychologiquement, mais il faut pas hésiter à y aller. Sachez une chose, c'est que une rupture avec une femme que vous aimez, alors je sais pas pour les femmes, donc je vais parler pour les hommes, enfin en tout cas qui sont doués de sentiments. Si vous êtes amoureux et que vous vous faites larguer comme une pauvre chaussette, c'est beaucoup plus dur que de supporter une entreprise que vous avez montée qui ne fonctionne pas. Mais vraiment, 10 fois plus dur. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. Ça, c'est typiquement très français. Soit c'est casse-toi, pauvre riche, soit c'est l'URSSAF qui toque à votre porte et, pour vous prendre votre argent durement gagné. Et face à ça, il faut rester stoïque, il faut mener votre barque et aller jusqu'au bout. Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Alors, si j'ai mis cette citation, c'est parce que bon nombre de personnes qui souhaitent entreprendre n'ont été que salariées par le passé. Alors après, évidemment, il y a des gens qui n'ont été que entrepreneurs et qui vont pas trop comprendre cette phrase, mais dans une entreprise, si vous êtes salarié, vous avez une obligation de moyens. C'est-à-dire que vous devez prouver que vous avez mis tout en œuvre pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on vous avait donnés. Sinon, vous, en tout cas en France, vous n'êtes pas licenciable. Ou alors, si vous êtes licenciable, mais il faut payer. Si vous êtes une entreprise, il faut payer des primes au licenciement. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises refusent de payer ces primes. Moi, je suis pour le fait qu'on se sépare des collaborateurs qui ne sont pas efficaces et de leur payer la prime de licenciement, peu importe, et de passer à autre chose. Le problème, c'est qu'on est dans une société où beaucoup de gens sont assez stupides dans la façon dont ils managent leur entreprise. Ils souhaitent absolument que ce soit une raison valable de virer quelqu'un. Moi, je considère que si vous virez quelqu'un, c'est parce que vous avez fait un recrutement et 2 ans après, en fait, cette personne-là, par exemple, n'a pas suivi la croissance de l'entreprise et n'est pas en capacité de se conformer à ce que l'entreprise est devenue. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut s'en séparer. C'est pas de sa faute, c'est pas de votre faute. Mais par contre, il faut surtout pas, quand vous agissez de cette manière-là, avoir un comportement à la Thierry Breton, comme chez Orange, où il va humilier ses collaborateurs, etc. Et il faut réussir à faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'atteindre les objectifs. On pourrait remplacer par « la fin justifie les moyens ». Il faut vraiment avoir vraiment conscience que quand vous gérez une entreprise, même quand vous la lancez, que vous êtes tout seul, tous ces préceptes s'appliquent. Ça peut être, si vous avez une morale qui est parfois sur oui, mais on pourrait faire une scope, etc., vous allez avoir parfois des dissonances cognitives. Et donc, c'est jamais agréable d'avoir des dissonances cognitives. Et donc, je vous recommande très fortement d'éviter les dissonances cognitives et d'accepter dès le départ votre médiocrité et la médiocrité des autres. Et par contre, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est votre responsabilité de ne pas accepter la médiocrité des autres et d'être suffisamment fort pour vous séparer des gens qui sont médiocres sans forcément les détruire. L'idée, c'est pas de les humilier ou de leur faire sentir que ce sont des pauvres merdes, parce qu'en fait, c'est probablement lié à vous, c'est probablement de votre faute. Sachant qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment néfastes. Moi, j'en ai été la victime, parce que j'ai perdu 100 000 euros sur un mauvais recrutement en l'espace de 4 mois. Sur une personne qui était vraiment incompétente et qui, en plus, j'ai recommandé à un confrère parce que je pensais que c'était moi le problème, enfin que c'était nous le problème et qu'on ne savait pas la manager. Il se trouve qu'elle a fait perdre 350 000 euros à ce confrère-là, qui ne souhaite plus me parler depuis, et je le comprends, et c'est entièrement de ma faute. Et donc, le recrutement, comme je vous l'ai dit lors de la précédente présentation, c'est un enjeu vraiment majeur. Bon. Alors maintenant, après qu'on a parlé des généralités, on va parler de la technique ce soir. L'idée, c'est de partir en guerre. Et quand on part en guerre, on a un plan d'action qui ne résiste jamais à la bataille, puisque la bataille implique son propre plan et que le plan que vous aviez imaginé va changer et la bataille crée son propre plan. Chaque entreprise est un peu différente. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que c'est toujours la loi de Murphy qui s'applique. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait tourner mal va tourner mal, et que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne serez pas prêt à ce qui peut vous arriver. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai un copain là, littéralement, je l'ai au téléphone avant ce livre blanc, qui m'a expliqué qu'il est en train de lever 1,8 million et que son principal partenaire, qui réalisait 80% de son chiffre d'affaires, c'est un peu complet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'a planté au dernier moment pour des questions d'ego, parce qu'en fait, il ne pensait pas qu'il arriverait à lever sur cette valorisation-là. Et sachant que c'est son client principal qui fait 90% de son chiffre d'affaires, il a décidé, ce client-là, d'arrêter de travailler avec lui et en fait, simplement d'essayer de le niquer. Tout ça pour des questions d'ego parce que lui-même avait refusé d'investir et aujourd'hui il se retrouve et il pense qu'il est le dindon de la farce, ce qui est un peu le cas. Il a un ego qui a mal réagi, alors qu'à sa place, un entrepreneur intelligent se serait dit tiens, je vais mettre 200 000 euros dans cette boîte et je vais prendre des parts, puisque c'est toujours intéressant, par exemple, de détenir des parts au capital et d'être membre du board de direction d'une entreprise qui est votre fournisseur. C'est toujours un point intéressant. Donc le plan d'action ce soir, on va se rappeler pourquoi il faut entreprendre ou pourquoi vous devriez entreprendre ou quelles sont les raisons pour lesquelles entreprendre est quelque chose de pertinent. Ensuite, on va voir quelles sont les étapes pour créer son entreprise. Donc on va tester le marché, les méthodes d'acquisition, générer les premiers milliers d'euros, trouver des clients, fidéliser vos clients, la perfection. Le client, c'est celui qui vous fait vivre et faire racheter vos clients. Pourquoi entreprendre ? Alors, vous souhaitez faire de l'argent. C'est pas forcément, je l'ai mis en premier, mais c'est pas forcément la raison principale qui doit vous amener à entreprendre. Mais je l'ai mis parce qu'il y a des gens en France, il y a beaucoup de gens qui disent moi j'aime pas l'argent ou l'argent c'est pas important pour moi. Si pour vous l'argent n'est vraiment pas quelque chose qui vous intéresse et que vraiment ça n'a aucune importance pour vous, et ça peut exister. Donc, typiquement, des gens qui soit n'en ont jamais eu, soit qui en ont beaucoup par héritage et qui, du coup, n'ont pas la rage de vaincre ou l'esprit pitbull, je dirais. Si vous êtes un golden retriever magnifique, intelligent, beau, et que vous avez déjà beaucoup de fric, c'est pas la peine d'y aller, ça va peut-être plus vous faire de mal qu'autre chose. Par contre, si vous êtes un Rottweiler ou un Mélinois... belge, ben n'hésitez pas, c'est probablement fait pour vous. Ceci étant dit, pour beaucoup, l'argent ne suffit pas, et quand je dis pour beaucoup, c'est 80%, et j'en fais partie, parce que je suis avant tout, personnellement, par exemple, quelqu'un de passionné. Donc je ne peux pas entreprendre dans un domaine qui ne m'intéresse absolument pas. Sinon, j'aurais fait vendeur d'assurance, j'aurais monté une agence générale. Parce que c'est franchement, si on est intéressé que par l'argent, c'est un truc qui est assez intéressant. Mais moi, ça ne me plaît pas. Donc, par contre, j'aime l'argent. Pas pour ce qu'il est en tant que maître, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais en tant qu'outil. Donc, il faut être principalement passionné. Et ensuite, il faut ne pas détester l'argent. Je dirais plutôt, en fait, au lieu de vous souhaiter faire de l'argent, c'est plutôt vous ne détestez pas l'argent. Et beaucoup de gens décident qu'ils n'aiment pas l'argent. Et pour beaucoup, c'est souvent qu'ils n'en ont jamais eu. Voilà. Ou qu'ils en ont déjà beaucoup trop. la troisième raison, c'est parce que vous êtes déterminé. Il faut que vous soyez déterminé à entreprendre et atteindre vos objectifs. Parce que si vous n'êtes pas déterminé, personne ne le sera pour vous. Il n'y aura personne derrière vous. Contrairement à quand vous êtes salarié, vous avez souvent un patron qui va vous dire fais ci, fais ça, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu peux me prouver que tu as travaillé, quels sont tes résultats, etc., etc. Tout ça, ça n'existe pas quand vous êtes entrepreneur. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes livré face à vous-même. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est que vous ne travaillez pas pour quelqu'un d'autre, vous travaillez pour vous. Et souvent, les gens travaillent principalement pour les autres, pas pour les autres, parce qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez pour vos clients. Mais il faut que vous soyez vraiment convaincu et intimement persuadé que vous allez délivrer un service de qualité pour vos clients. Vous aimez vos clients. On en vient aux clients. Il faut aimer vos clients. Personnellement, je ne connais personne qui déteste ses clients, qui réussit. Ou qui a déjà monté un business. Alors bien sûr, évidemment, parfois vous avez des clients qui vous rigolez d'eux ou parce que vous avez des cas qui passent. Hein, c'est sûr sur des centaines ou des milliers de clients, vous avez parfois des cas quoi, parce que l'humanité est remplie de gens qui sont parfois un peu bizarres. Et donc, vous allez y avoir affaire. Mais fondamentalement, vous devez aimer vos clients. Vous savez vous sacrifier. Vous savez sacrifier, comme je le disais la semaine dernière, peut-être vous êtes capable de vous dire, OK, je pars sur un chemin où je vais être jugé, où je vais avoir des problèmes de couple, où je vais même avoir des ruptures, où je vais... voilà. Vous savez, vous acceptez le revers de la médaille. Vous savez accepter la charge que cela implique. Vous allez jusqu'au bout. Alors, comme je le disais la semaine dernière, l'entêtement est stupide, mais par contre, il faut pas lâcher jusqu'à ce que vous ayez décidé de lâcher. N'importe quelle décision, d'ailleurs, que vous prendrez, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez décidé de changer de point de vue. Et ça, c'est un peu paradoxal. C'est qu'il ne faut jamais hésiter jusqu'à ce que vous décidiez de changer de chemin. Donc, si vous avez des questions à propos de ça, je me ferai un plaisir de vous donner des exemples. Vous n'avez pas de limite. Alors, ça veut dire que pas de limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à tout pour l'accomplissement et la réussite de votre mission. C'est un concept qui est assez militaire d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, qui l'est complètement. C'est que entreprendre, c'est si vous vous dites oulala, je veux pas prendre d'avion, oulala, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, vous allez vous retrouver face à un problème, c'est qu'en fait vous allez à un moment donné dans votre vie professionnelle vous retrouver à devoir faire dans la même journée, par exemple une présentation à Marseille et à 11h et une autre à 19h à Rennes. Et donc à moins de prendre un avion, ça va être compliqué. Donc, faut pas avoir de limite au sens où vous vous dites OK, vous avez pas d'état d'âme, quoi. Et enfin, vous êtes fier. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif parce que je parlais tout à l'heure de la bêtise d'avoir de l'ego. Être fier ne veut pas dire être stupide. C'est-à-dire que vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous marche sur les pieds. Moi, par exemple, il a fallu que lors de l'une de mes dernières expériences en tant que consultant, j'ai été pris pour un con par mon client qui s'est moqué de moi, et c'est un ami à moi qui m'a dit, mais mec, le type est... Parce que je l'ai appelé mon ami, je lui ai dit, écoute, je comprends, cet ami-là en question est directeur général d'une boîte, il gère 270 salariés, et c'est un ancien client à moi, je lui ai dit, écoute, je comprends pas, le mec il me dit ça, pourtant... Et en fait, mon ami m'a dit, mais tu te souviens de tel ex que t'as eu, qui était une malade mentale et qui t'a fait du mal, ouais. En fait, là, il est en train de faire la même chose. C'est un pervers narcissique, c'est un mec toxique. Sauf qu'en fait, il est en train de se comporter avec toi parce que t'as envie de donner le meilleur de toi et d'essayer de le rejoindre comme associé. Et en fait, il t'utilise. Résultat des courses, je l'ai copié et j'ai fait Flash Job. Donc, la boîte que j'ai actuellement et qui marche très bien. Et c'est pour vous dire, ça fait depuis le mois de juillet. Donc, ça fait 4 mois à peu près que j'ai lancé ça. Et aujourd'hui, au bout de 4 mois, je fais autant de chiffre d'affaires par mois que lui au bout de 2 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas il faut pas s'oublier et il faut parfois être capable de dire merde quand vous avez à dire merde. Quand vous aurez des salariés ou quand vous aurez des équipes ou des clients qui seront nombreux, il va falloir que vous les inspiriez, parce que c'est des gens qui vont décider de vous suivre, qui vont décider de vous faire confiance, et c'est votre responsabilité de faire en sorte que ces personnes-là soient inspirées par vous et qu'elles souhaitent vous suivre. C'est extrêmement important. Et pour réussir cette tâche-là, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement, essayer de sortir... moi, je suis abonné à un certain nombre de chaînes YouTube, par exemple... de entre guillemets zététicien souvent ou même d'une manière générale le fait d'être cartésien, le fait d'être vraiment sur le rationnel fait oublier à certains qu'en fait l'inspiration que vous engendrez envers les autres est un facteur extrêmement important au sens où ces facteurs-là sont scientifiquement très difficilement démontrables. Le fait que vous inspiriez les autres, que vous leur donniez envie de vous suivre, etc. Moi, par exemple, je vais vous le dire très franchement, j'ai probablement jamais respecté le code du travail et j'ai jamais eu de prud'homme. Et la raison, elle est simple, c'est que je me suis toujours comporté de manière droit, honnête et j'ai essayé d'être le plus inspirant possible, que ce soit vis-à-vis du projet ou vis-à-vis de mon comportement, vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi. On n'est jamais parfait, mais c'est extrêmement important parce que si vous n'arrivez pas à être dans cette mentalité-là, vous allez avoir des soucis. Par exemple, j'ai recruté quelqu'un qui avait un poste de directeur dans une société, et cette personne-là a fait pleurer quelqu'un qui travaillait pour nous gratuitement parce qu'il était heureux de nous aider dans notre progression. Et donc, au-delà du fait que, évidemment, faire travailler quelqu'un gratuitement en France, ça s'appelle du travail dissimulé, et que concrètement, c'est lui qui est venu nous voir pour nous demander s'il pouvait travailler pour nous gratuitement, etc., etc. Ce qui n'est pas le sujet, en fait. Mais globalement, si vous voulez, cette personne-là, vu qu'elle a, enfin, je veux dire, elle s'est pris un énorme coup de pression au point de pleurer de la part de quelqu'un qui était directeur chez nous, elle aurait pu porter plainte contre nous et elle aurait probablement gagné. Elle ne l'a pas fait et je pense que l'élément majeur qui a fait qu'elle ne l'a pas fait, c'est parce que c'était un épiphénomène. On a arrêté de travailler avec elle. Je veux dire, finalement, on s'en est séparé. On lui a demandé de ne pas revenir parce que voilà, elle ne matchait pas avec le niveau de ce qu'on exigeait dans la boîte. Mais par contre, ce que j'ai dit au directeur que j'avais recruté à ce moment-là, c'est que je lui ai dit, dans ma boîte, un salarié ou une personne qui travaille pour nous ne pleure pas. On ne fait pas pleurer les gens ici, tu vois. C'est une question de principe. Donc, c'est votre responsabilité de faire en sorte que dans votre entreprise, il n'y ait pas des fous furieux qui rentrent ou des fous furieux qui se permettent des comportements inacceptables pour vous ou pour les autres. Les étapes pour créer son entreprise. Soyez avant tout passionné par votre projet. Vous devez avoir un petit singe qui tourne en rond dans votre tête. Quand j'écris ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une idée d'entreprise, il faut que quand vous vous couchez le soir et que vous avez l'esprit complètement vidé, vous ayez le petit singe de tac tac tac, il faut que tu crées telle boîte, tac tac tac, il faut que tu crées telle boîte. Et quand votre esprit vagabonde, il ne peut pas vagabonder sur autre chose que sur ce projet, quoi, en fait. Et que vous soyez constamment en ébullition intérieurement. En général, c'est bon signe pour créer une entreprise. Si vous êtes en mode ah, je ferais peut-être bien ça, là vous partez mal. C'est pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vous recommande de vendre avant de produire au maximum si vous le pouvez, même pour du hardware d'ailleurs. Notamment, par exemple, on voit Kickstarter et tous ces projets collaboratifs, hein, c'est de la vente avant la production. Et c'est pareil pour les services, si vous le pouvez. Je vous recommande fondamentalement de vendre avant en fait, simplement de ne serait-ce que déposer vos statuts. Vous avez 6 mois dans la législation française entre le moment où vous débutez votre activité et le moment où vous devez la déposer d'un point de vue légal. Donc ces 6 mois-là doivent vous permettre en fait de simplement tester votre marché et voir si vous pouvez vendre. Vous pouvez vous raconter des histoires. Lui, le marché ne vous fera pas de quartier. C'est-à-dire que vous pouvez faire des questionnaires auprès de 500 personnes en ligne ou dans la rue, de gens qui vont vous dire poliment, ouais, j'achèterais bien votre produit, etc. La chose qu'il faut prendre en compte, c'est que entre ce que pense quelqu'un, ce que vous dit quelqu'un par politesse, ce que cette personne va faire, ce que cette personne a pensé qu'elle a fait, ce que cette personne va vous dire qu'elle a pensé qu'elle a fait et ce qu'elle vous dit qu'elle a fait, en fait, vous avez 7, 5, 7 versions de l'histoire, de la même histoire, en fait. Donc le seul juge de paix, c'est de savoir est-ce que cette personne-là vous a acheté quelque chose ou est-ce qu'elle ne vous a pas acheté quelque chose. Avant d'aller chercher des investisseurs, il faut que vous ayez généré vos premiers milliers d'euros. Alors évidemment, si vous travaillez dans le secteur de la santé, par exemple, et que vous souhaitez développer un nouveau médicament, et pour plein d'autres domaines, générer les premiers milliers d'euros avant de chercher des investisseurs, c'est pas forcément quelque chose de pertinent. Ceci étant dit, même si vous montez un bar, vous pouvez décider de créer des soirées disons, tous les vendredis soirs dans votre appartement, où vous allez dire, voilà, ce soir, création de cocktails particuliers, Par exemple, vous cherchez à créer un bar à cocktail. Et vous vous dites comment faire en sorte d'arriver chez le banquier avec autre chose que juste une étude de marché, mais également avec le fait qu'en fait, les produits que je produis sont bons et qu'il y a de la récurrence de revenus et de récurrence de gens qui viennent à mes soirées. Et bien, tous les vendredis, pendant 4 mois, vous allez organiser une soirée chez vous où vous dites cocktail party. Vous venez, les cocktails sont à un prix unique à 6 euros, ce qui est deux fois moins cher que ce qui se passe à Paris. Et en gros, vous allez être capable de voir quelle est la clientèle que vous êtes en capacité de ramener. Et vous essayez par exemple de créer des cocktails de la meilleure qualité qui soit, avec les alcools de la meilleure qualité qui soit. Et vous allez faire en sorte, par exemple, de ne pas faire de marge sur ces soirées-là que vous organisez, mais de faire la meilleure qualité et de proposer aux gens qui viennent et qui paient de laisser des commentaires. Et donc, l'idée, c'est que peut-être vous allez commencer cette soirée-là avec 5 copains et puis ensuite, vous allez demander à vos copains « Je fais la même soirée vendredi de la semaine prochaine. Si vous voulez revenir avec des amis, ben, vous êtes le bienvenu, etc. etc. » Donc ça, c'est une idée juste, par exemple, pour créer un bar à cocktail. Mais ça pourrait être, à la fin, au moment des questions-réponses, vous pouvez me dire quelle est votre idée et puis on peut voir comment on peut commencer à générer les premiers sous. Jouer avec l'argent des autres, c'est toujours mieux sans dette, hein, évidemment. j'ai jamais créé un business en m'endettant, personnellement. Et j'ai jamais créé un business où j'ai eu besoin de mettre du fric en faisant en sorte que cet argent-là soit le mien. Donc, je l'ai fait une fois et ça s'est mal terminé. Et on parle d'une petite somme puisqu'on parle de 3500 euros et que j'avais emprunté 1000 balles à un pote. Donc, on parle pas d'un truc énorme, tu vois. Et ça s'était pas bien fini. Et donc, ça m'a un peu servi de leçon. Et je l'avais pas fait avant et je ne le referai plus jamais. Donc, quand vous jouez avec de l'argent, essayez toujours de jouer avec de l'argent que les autres ont décidé d'investir sur vous ou de mettre sur vous. Que ce soit le banquier ou que ce soit des investisseurs. Au niveau de la forme juridique, SAS ou SASU, une fois que vous avez fait rentrer de l'argent avec un statut de micro-entrepreneur, pas de SARL et aucun autre modèle de dépôt dans l'entreprise. C'est SAS ou SASU. Pour une simple raison, c'est que vous avez les statuts dans votre SAS ou votre SASU, mais vous avez également, alors surtout pour les SAS, mais surtout quand vous êtes à plusieurs, mais vous avez surtout un truc qui s'appelle le pacte d'actionnaires. Il faut savoir par exemple qu'une SARL, vous ne pouvez pas faire votre conseil d'administration, enfin l'équivalent du conseil d'administration, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'une SAS, vous pouvez faire le conseil d'administration via un Google Meetup. Une SARL, vous êtes obligé de vous rencontrer physiquement. Donc ça pose plein de problèmes. La SARL, c'est vraiment un enfer. Donc moi, je vous recommande soit une SAS, soit une SASU, une fois que vous avez dépassé les plafonds de micro-entrepreneurs. Comment trouver des clients ? Alors ça, c'est la bonne question. C'est simple. Dans un premier temps, vous allez voir vos amis, votre famille, votre mère, votre père, tout le monde est un client potentiel. Commencez par vendre aux gens qui vous connaissent ou qui vous connaissez. Le ridicule ne tue pas. La moralité d'une méthode n'est pas votre enjeu. Ce qui compte, c'est vraiment ce que vous vendez soit quelque chose de valable. Utilisez des méthodes d'arnaqueur s'il le faut pour vendre quelque chose de légitime. Par contre, vous devez être irréprochable dans ce que vous délivrez à votre client. C'est-à-dire, c'est un peu comme Jordan Belfort, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jordan Belfort, c'est le personnage principal dans The Wolf of Wall Street. Et donc, c'est un personnage qui a comme habitude d'arnaquer ses clients, etc. Par contre, il les arnaque, mais avec une méthode qui est extrêmement bonne et qui est encore valable aujourd'hui, c'est-à-dire de créer la confiance, de créer une relation et ensuite de mordre sa cible. Ce que les gens reprochent à Jordan Belfort, c'est peut-être sa méthode, mais en fait, si sa méthode elle fonctionne pour vendre quelque chose qui est vraiment bénéfique au client, le client à la fin il sera très content que vous ayez utilisé cette méthode, alors qu'à la base il aurait peut-être probablement pas acheté. Donc il faut pas se dire que le moyen est quelque chose de moralement mauvais. Faut juste se dire, très bien, ce qui compte, c'est est-ce que la finalité de mon objectif est moralement condamnable. Si la finalité de votre objectif n'est pas moralement condamnable et que vous apportez beaucoup de valeur à vos clients, alors dans ce cas-là, en vrai, surtout au début, vous n'en avez rien à foutre que de la moralité des méthodes que vous utilisez. Ce qui compte, c'est les résultats. Vous pouvez par exemple aller à des événements physiques ou virtuels pour présenter votre société. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas bouger. Et ben, vous devez ne reculer devant rien. Faites du contenu en ligne. Par exemple, moi j'ai une chaîne YouTube pour ma boîte, flashjob.fr, les articles de blog, les podcasts, peu importe, apportez de la valeur à une audience. C'est-à-dire que si vous créez de la valeur à une audience en ayant un contenu très personnalisé, ma chaîne YouTube, elle a quoi, 2000 vues, flashjob.fr, mais en fait, je m'en fiche du nombre de vues, parce qu'en fait, moi, les vidéos que je fais, les gens qui vont sur ces vidéos-là, qui tapent ces recherches-là dans YouTube et qui tombent sur mes vidéos, c'est forcément des gens qui recherchent un emploi, une alternance ou un stage. Et moi, c'est la clientèle que j'ai. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, vous, en fonction de ce que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à utiliser YouTube, non pas comme un influenceur mass market, mais comme juste, en fait, vous faites un tuto, vous faites, par exemple, moi, j'ai fait des vidéos, comment trouver un emploi, comment créer un profil LinkedIn qui déchire, etc., etc. Ça, c'est très important. Les articles de blog, c'est pareil. Et dans les articles de blog, pour faire votre SEO, pensez à faire quelque chose que vous-même vous souhaiteriez lire. N'essayez pas juste de faire de l'optimisation SEO. Faites quelque chose que vous souhaiteriez lire vous-même. Quelques méthodes. Alors en B2B, par exemple, vous pouvez utiliser LinkedIn ou Alaxy. Alors je vous ai transmis la semaine dernière mon Google Doc avec tous les outils que j'utilise. Dedans, il y a Walaxy, mais évidemment, toutes ces questions-là, vous pourrez me les demander. Je vous les partagerai dans le chat une fois le livre blanc terminé. Plus DropContact, plus Yetana Zomer Merge, connexion LinkedIn, plus email, budget, vous balancez 350 euros par mois et vous avez une potentialité business qui peut monter jusqu'à 200 000 euros. Si vous lancez un business en B2C, ce qui est mon cas avec Flash Job, j'ai lancé un business B2C, c'est la même méthode que le B2B pour vos premiers clients. Et puis, en parallèle d'ailleurs, je vous recommande de faire du SEO pour renvoyer vers votre site internet. Vous pouvez ensuite essayer le Google Ads, le Facebook Ads, les recommandations. Et les recommandations, c'est le bouche-à-oreille et le reach naturel. À ce stade, votre budget pub doit être de l'ordre de 5 à 10 euros par jour maximum pour tester le plus d'options possibles et détecter les meilleures opportunités. Vous devez faire du manuel. Et le ridicule ne tue pas. Alors pourquoi vous hésitez? Ça, c'est toujours la question que je me pose. Enfin, vous devez fidéliser vos clients. Faites-en plus que ce que vous avez vendu, sans survendre. Ça veut dire que essayez de vendre le moins possible. Et une fois que vous avez vendu, délivrez au-dessus de ce que vous avez promis. Comme ça, votre client sera sursatisfait, c'est toujours mieux. Activez vos clients via des événements. Ces clients-là, quand je dis clients, c'est des gens qui ont déjà payé et qui ont déjà arrêté d'utiliser votre service ou votre produit, peu importe. Essayez d'entretenir la flamme entre vous et votre client, juste pas de faire un one-shot. Tentez de créer une vraie valeur ajoutée en les appelant pour prendre des nouvelles. Une fois qu'ils ont fait appel à vous, faites-leur vous raconter leur vie. Ça, évidemment, quand vous aurez 1000 clients, vous ne pourrez plus vous le permettre. Mais vos 20 premiers clients ou vos 100 premiers clients, vous avez largement le temps de le faire. Construire de la confiance. Et en fait, il faut se rappeler que ça coûte 7 fois moins cher de conquérir renouveler un client que vous avez déjà, donc de revendre un client, que de conquérir un nouveau client. Je me suis un peu foiré dans la presse, excusez-moi. Enfin, la perfection. Alors, petit 1, la force des process. J'étais pas process et en fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Parce que dès que vous commencez à avoir, 30 clients, même 10 clients, 15 clients, il faut que vous documentiez, que vous structuriez, que vous organisiez tout ce que vous faites avec eux pour essayer de délivrer constamment la même qualité à tous les clients que vous allez avoir. Et en plus de ça, quand votre boîte va grandir, ça vous permettra de transmettre des documents aux stagiaires que vous allez recruter dans un premier temps, aux salariés que vous allez recruter dans un deuxième temps, aux alternants que vous allez recruter dans un troisième temps. Et ça, c'est extrêmement important. L'attention aux détails. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors il y en a une vision en France qui est l'attention aux détails ne passe pas forcément par le process ou ne passe pas du tout par le process. D'ailleurs, le process ne doit pas être un frein au fait de sortir du process. Hein. Le process doit être un moyen, si vous voulez, une fois que vous avez maîtrisé votre process de A à Z et de la meilleure façon qui soit, Justement, ça doit être un outil qui doit permettre aux équipes de sortir du process pour être encore meilleur avec chaque client. Le process, il est créé et initié pour donner une base de départ. Ensuite, il faut que vos équipes s'adaptent au client et soient, en fait, parce que c'est le client qui compte. Donc, il ne faut pas essayer de faire rentrer le client dans une case de votre process. C'est un peu l'erreur que font les grands groupes, c'est qu'ils ont des process qui sont très bien établis, mais parfois, leurs process sont un peu pourraves parce que ils ont des politiques d'emploi de ces process qui sont vraiment freinants, on va dire, pour les équipes qui peuvent pas sortir de ces process-là, sinon elles peuvent avoir des problèmes en interne. Donc l'idée, c'est si vous créez votre boîte, vous créez des process, vous les utilisez, mais ça ne doit pas être des carcans desquels vous ne pouvez pas sortir. Et notamment par rapport à l'attention aux détails, c'est-à-dire que parfois dans votre process, il y a des choses qui vont vous échapper quand vous allez les constituer. Et donc, il faut que vous inspiriez l'attention aux détails à vos équipes et à vous-même. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Hermès, Kering, LVMH, Apple, Google, se sont toutes construites, toutes ces sociétés-là se sont construites sur l'attention aux détails. Et ça les a pas empêchés de faire des process, quoi. Quand ils font un sac Birkin chez Hermès, c'est de la production en série. Alors, pas en grande série, hein, on n'est pas chez Ford, hein, mais c'est de la production de série. Donc il y a du process, mais en même temps il y a une attention aux détails qui est extrêmement importante et qui fait que chaque client est particulier sur tout le process de vente et sur tout le process de production. Donc c'est très important à prendre en compte. Votre client est votre patron. Vous ne cherchez pas à plaire à un patron comme quand vous êtes salarié. Le choix de votre client de vous faire confiance ne repose pas sur son ego, mais sur votre capacité à répondre à un besoin qu'il a. Et c'est ce pourquoi il vous a fait confiance. Trahir sa confiance ou ne pas délivrer ce pourquoi il vous a payé, c'est irréparable. Et donc, là, c'est soit un remboursement sans poser de questions et en s'excusant, soit c'est... il n'y a pas trop d'autres alternatives. Il faut vraiment être irréprochable vis-à-vis de vos clients. Et il faut que, quand ils vous ont accordé leur confiance, il faut que vous soyez au top. Le code du travail ne vous protège pas d'une rupture de contrat. Quand vous travaillez comme salarié, si vous faites du travail si vous travaillez correctement, mais que les clients de l'entreprise sont insatisfaits, l'entreprise qui vous emploie, malgré le fait que le travail que vous avez fourni n'est pas suffisamment bon pour que l'entreprise en face soit satisfaite, si par contre votre travail il est objectivement de qualité, mais qu'il n'est pas au niveau, l'entreprise ne peut pas vous virer. Elle n'en a pas le droit. Et donc, du coup, c'est toute la différence. C'est que quand vous êtes entrepreneur, vous avez des gens qui travaillent pour vous, ou alors vous-même, si vous n'en êtes pas à ce niveau-là, vous travaillez pour vos clients. Et en fait, il n'y a rien qui vous protège du fait que vous perdiez un contrat. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Par contre, vous n'êtes pas... vous avez compris. Si un client vous parle mal ou vous traite comme de la MERDE, pas de pitié en fait, c'est-à-dire que vous lui dites écoutez, je suis un être humain, donc ciao. Et si vous avez des membres de votre équipe qui sont traités n'importe comment par un de vos clients, alors après c'est toujours pareil, hein, ça dépend, c'est à géométrie variable, mais moi je sais par exemple que j'ai déjà envoyé Petre à un manager du groupe Euro RSCG Consulting. Parce que le mec se permettait de me parler comme une merde pendant un rendez-vous business. Et en fait, à un moment donné, je me suis levé, je lui ai dit, écoutez, je suis pas votre stagiaire, je suis pas votre salarié. Donc en fait, on va arrêter l'entretien ici, parce que de toute évidence, on n'est pas fait pour bosser ensemble, quoi. Donc, il faut jamais se laisser parler d'une mauvaise manière, tout ça parce que c'est votre client ou votre prospect. Pas une raison. Et enfin, en B2B, vous pouvez aussi faire de l'anti-vente ou des bravades. Alors ça, c'est un truc que j'apprécie de plus en plus. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui se comportent mal avec vous, et en fait, faut leur renvoyer à la gueule 10 fois ce qu'est la façon dont ils se sont comportés avec vous. Et en fait, ils vont probablement choisir un prestataire concurrent parce que ils vont dire que vous êtes quand même vachement gonflé. Et puis, en fait, quand ce prestataire suivant aura fait le lèche-botte et que, en fait, tout ça pour réussir à obtenir un contrat avec des clauses qu'il est incapable de tenir et qu'il aura foiré, et ben en fait la personne à laquelle vous aurez dans laquelle vous serez rentré dedans, alors il faut être poli hein quand vous rentrez dans les gens, mais vous pouvez le faire poliment, Bah en fait, elle va probablement revenir vers vous parce qu'elle se dira, bah, lui, c'est un vrai professionnel, il n'a pas baissé sa culotte. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter parce qu'il ne faut pas non plus. Faut aussi penser à un truc, c'est que ça arrive souvent dans le B2B. Hein. Quand il y a quelqu'un qui se comporte de cette manière-là et que le prestataire choisi, finalement, ne remplit pas le. Enfin, n'arrive pas à faire en sorte que le manager en question atteigne ses objectifs. Le manager qui avait pris cette décision se retrouve dans une situation pourrie. Et donc, du coup, ça fait qu'il est obligé de trouver une solution de sortie. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez tirer vos cartes du jeu et vous renverser et vous inverser en fait la table des négociations. Et donc, ça, c'est toujours intéressant de se retrouver dans cette situation-là. Faites racheter vos clients. Donc, je vais faire un peu de redite, mais soyez parfait, ayez une bonne réputation et créez du lien. Donc, en fait, si vous respectez ça, normalement, ça vient en même temps. Il faut penser à une chose, c'est qu'il y a deux choses dans la vie qui ne se rachètent pas. Hein. Je me répète peut-être, mais c'est votre réputation et le temps. Vous pouvez racheter quasiment l'amour, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais votre réputation et le temps, ça ne se rachète pas. Et si vous avez une mauvaise réputation, vous allez vous faire cramer. Si vous perdez du temps, ben, vous ne pourrez pas le rattraper. Et parfois, il y a des choses qui prennent du temps, et donc il faut accepter de perdre ce temps-là parce que c'est nécessaire. Et donc, créer du lien aussi, c'est très important. Moi, sur les 4000 clients qui sont passés par, plus de 4000 clients en 3 ans qui sont passés par chez Yakim Project, je dois être pote avec 200 d'entre eux, et il y en a une vingtaine que j'ai au téléphone au moins une fois par mois. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un faible ratio. Mais il y a des gens dont je suis pas pote et qui m'appellent comme ça en mode random pour me dire merci Charles, grâce au fait que j'ai fait The Hacking Project à l'époque, maintenant je suis développeur dans l'équipe growth de Conto, je gagne bien ma vie et tout. Voilà, là c'est j'ai un ancien élève qui m'a envoyé une story. Dans laquelle il me cite et il me remercie de l'avoir inspiré et d'avoir fait en sorte qu'il atteigne les objectifs qu'il s'était fixés et tout. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que bah déjà, humainement, c'est très agréable. Et puis deuxièmement, ça vous crée une bonne réputation et ça vous permet de garder du lien avec les gens qui vous ont fait confiance. Quand vous aurez des salariés, des clients et que vous serez regardé, là, vous changez de game. Donc à ce moment-là, vous m'appelez. Vous allez voir, ça fait du bien d'avoir des gens à qui parler quand on est dans ces positions. Même avant, hein, si vous avez votre boîte qui commence à décoller et que vous commencez à avoir des clients. Là, je vous ai donné les premiers éléments pour essayer d'avoir vos premiers clients, mais quand vous allez avoir des clients, comme le dit l'expression américaine, more money, more problem. Donc, more money, ça veut dire plus d'argent, et more problem, ça veut dire plus de problèmes. Donc, plus vous aurez d'argent, plus vous aurez de problèmes. Donc, voilà. À ce moment-là, bah, n'hésitez pas à m'appeler, ça fait toujours du bien de pouvoir se confier à quelqu'un. Vous deviendrez un chef, et donc comme le disait le général de Gaulle, un chef c'est fait pour cheffer. Et donc après, chacun a sa méthode pour cheffer. Moi, j'essaie d'être un petit peu Marcus Aurelius Maximus, général des légions Félix, donc. Il y en a qui sont pas du tout comme moi, qui sont des taiseux, qui travaillent très dur et qui inspirent leurs équipes. Juste par ce qu'ils font. Moi, j'essaie de, en plus de ça, de rajouter un côté poétique et romantique, pas au sens hein, amour vis-à-vis d'une femme, hein, mais romantique au sens littéraire du terme, aux actions que je peux entreprendre. Chacun est fait comme il est, hein, donc c'est à vous de voir quel est votre type de chef charismatique que vous souhaitez être. Et enfin, n'abandonnez jamais, puisque de toute façon, la route est longue et le succès n'est pas garanti. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo d'Elon Musk. Et puis on passera aux questions après. Sachez que de mon côté, l'enregistrement se termine. Et je vous dis à tout de suite.